Nous vous présentons, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dôme. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. suis-moi. Et Maxime suit David qui lui montre des rues lugubres, étroites, sales, dans des immeubles qui sont de vrais taudis. Il fait entrer dans les allées de ces immeubles pour lui montrer vraiment la misère, lui montrer les gens qu'il connaît et qui n'ont rien et qui pourtant travaillent. Tu vois, c'est pas normal que des gens qui travaillent ne puissent pas vivre d'une façon décente. Maxime lui dit, j'ai compris. Oui, j'ai compris maintenant. Je te demande pardon. Allez, viens. Et il s'en retourne vers les manifestants. Il retombe devant les grévistes. Mais ils voient que les flics continuent à les tabasser. Un agent voit les enfants qui se sauvent en courant. Maxime est pris. Sans rien dire, le flic l'amène au commissariat. Là, arrivé au commissariat, Maxime est mené. Dans le bureau du commissaire. Le commissaire, un petit homme chauve, tout maigre, habillé en costume gris délavé, lui demande « Qui es-tu ?» Maxime lui dit « Je suis Maxime Lafarge. » Le commissaire lui demande « Des papiers ?» Maxime sort une carte de son père. Le commissaire la regarde et lui dit « Tu fais partie de la famille Lafarge, la banque ?» Maxime lui dit « Oui, c'est mon père. » Le commissaire réfléchit et lui dit « Bien, nous allons prévenir ton père. Mais si tu dis un mensonge, si tu as menti, tu auras affaire à nous. » Allez, amenez-le dans le hall, faites-le asseoir. On fait sortir Maxime du bureau du commissaire. Il est mené dans le hall et on fait asseoir sur un banc. Puis le commissaire demande à l'agent d'aller à la banque pour prévenir le père. Maxime a peur. Il a très peur. Il se demande ce qu'il va devenir. Il reste assis sur le banc. Regarde les employés du commissariat aller et venir. Le temps passe. Chaque fois que la porte du commissariat s'ouvre, il a peur de voir apparaître son père. Il se demande ce qui est devenu son ami David. Puis, tout à coup, il voit apparaître son père. Il panique. Son père a l'air furieux, mais son père fait celui qui ne fait pas attention, qui ne le voit pas. Va à la banque. Il demande à l'agent qui est à la banque. « Bonjour, je viens pour prendre mon fils. » L'agent qui est à la banque lui dit « Attendez, monsieur, je vais voir. » Et il quitte la banque, se retire.
Maxime reste sur son banc sans oser bouger. Il est très gêné. L'agent revient. Dit au père Maxime, « Veuillez me suivre, monsieur. » L'agent mène le père de Maxime au bureau du commissaire. Frappe à une porte, entrez. Fait entrer le père Maxime. La pièce est petite, sombre, sale. Et assis à son bureau, le commissaire, qui est un homme petit chauve, il porte un vieux costume gris. Il dit au père de Maxime, approchez-vous, monsieur. Le père Maxime s'approche. Le commissaire lui dit, alors c'est vous le père de ce garnement. Vous surveillez votre fils, monsieur. Il doit avoir des idées anarchistes, révolutionnaires. C'est pas normal qu'un enfant de cet âge aille manifester avec la racaille. Le père Penaud lui dit, il est bien jeune, monsieur. Le commissaire lui dit, justement, il est bien jeune. Vous devriez le surveiller un peu mieux, monsieur. Le père lui dit, c'est que nous pesons. C'est ce que nous pesons, monsieur. Mais vous connaissez la jeunesse. Le commissaire lui demande, vous êtes bien le président de la banque Lafarge, monsieur. Le commissaire lui dit, oui, monsieur. Le commissaire lui dit, eh bien, monsieur, le président d'une banque comme la vôtre doit faire en sorte à ce que son fils ne doit pas fréquenter la racaille. Le père lui dit, je sais, hélas, monsieur. Le commissaire soupire et dit, bien, vous pouvez prendre votre fils, mais la prochaine fois, il ira chez le juge. Veuillez me suivre, monsieur. Il sort du bureau. Les deux hommes vont jusqu'à Maxime, qui les voit arriver, tous les deux. Il se sent penaud et triste. Il ne sait ce qui va se passer. Le commissaire dit à Maxime, « Jeune homme, je vous rends votre famille, mais la prochaine fois, vous irez voir le juge. » Il dit au père, « Embarquez-moi ce garnement, monsieur. Au revoir, monsieur. » Et le père dit, « Au revoir, monsieur. » Regarde son fils, il est furieux. Maxime n'ose pas regarder son père. Il a honte. Viens. Et tous deux sortent du commissariat. Tous deux, une fois sortis du commissariat, le père prend un fiacre et le fait rentrer pour le ramener chez lui. Une fois chez lui, il le ramène à sa chambre. Une fois dans sa chambre, son père l'a giflé et lui demande « Que faisais-tu avec ces faiseurs de grève ?» Maxime lui dit « Voilà, papa, je suis passé devant des grévistes et je les ai simplement regardés manifester. » Il y avait des agents qui les tabassaient. Ça m'a fait de la peine. Et puis, je sais qu'ils faisaient la grève pour pouvoir mieux vivre. Ils vivent dans des conditions très misérables. Ils n'ont même pas assez pour se nourrir. J'ai trouvé ça injuste qu'on les empêche de manifester pour demander de l'argent. Ton père lui dit, je comprends ce que tu ressens, mais si on leur donnait ce qu'ils demandaient, la fabrication des produits qu'ils fabriquent serait trop chère et l'on serait obligé de fermer l'usine. Ils seront encore plus misérables que maintenant. Maxime lui dit, oui, mais en travaillant, ils sont déjà très misérables, ils ne peuvent pas vivre avec ce qu'on leur donne. » Mon père lui dit, « Il faut que tu comprennes la vie. Mais on n'y peut rien, c'est la vie. Il faut diriger et prendre des décisions qui semblent injustes pour que tout le monde puisse tourner, pour que le monde puisse tourner. Je ne t'en veux pas pour ce que tu viens de faire, mais réfléchis. Avoir bon cœur, ça peut être aussi dangereux. » Il donna une tape sur l'épaule de son fils et sort de la chambre. Maxime réfléchit à tout ça et se dit que ce n'est pas juste, que les ouvriers ont droit aussi de vivre décemment. Son père n'en veut pas à son fils. Il faut qu'il apprenne la vie. Lorsqu'il voit sa femme, il lui explique ce qui s'est passé. Elle ne dit rien parce qu'elle est prise par l'histoire de son beau-frère. L'oncle ne parle plus de mariage. Il voit toujours Hélène qui ne pense qu'à sa vie-là. Elle lui a donné envie de vivre dans le midi. Mais l'amour fatigue. Lorsque le désir est consommé, l'amour diminue et la routine est là. Il commence à s'ennuyer avec Hélène. Il la connaît bien physiquement et moralement. Plus de surprises. Tue l'amour et la routine aussi, etc. Un jour, il voit dans la rue une belle jeune fille. Il regrette sa liberté et se dit qu'il est libre puisqu'il n'est pas marié. Alors, il va de moins en moins la voir. Elle est inquiète parce qu'elle a besoin d'argent. Lorsqu'elle le voit, elle lui demande « Qu'as-tu ?» Il lui répond « Rien ». Elle se fait chatte, mais le charme a disparu. Oui. Il sait que le charme est rompu. Et elle aussi le sent. On les voit tous les deux séparément avec d'autres compagnons. La mère jubile et en parle à son mari. Elle lui dit, ton frère sera toujours le même. Il passe d'une femme à l'autre. Hélène, avec qui il voulait vivre, maintenant la laisse tomber. Il paraît qu'il court les jeunes filles. Son mari hausse ses épaules et lui dit, tu connais mal les hommes. Si tu les connaissais un peu mieux, tu ne t'aurais pas fait du souci. L'oncle se passionne pour ses conquêtes. Il est un coureur. Le père va à la chasse chez des amis en Bourgogne qui ont un château là-bas. Malheureusement, le fils d'un garde-chasse, est tué. Alors qu'il rabattait les animaux. Il avait 14 ans. Grand, mince, encore enfant. Les parents de l'enfant sont effondrés. Ce sont de simples paysans. C'est un invité qui a tué par accident. Henri Genet donne une bonne somme à la famille. Le père de l'enfant refuse et lui dit « Ça ne ramènera jamais mon fils. » Le père, à son retour, raconte ce qui s'est passé. Maxime apprend aussi. Il est furieux et lui dit « La chasse devrait être interdite. » Le père lui dit « Et tu mangerais quoi ?» Maxime lui répond « Les animaux de la ferme. » Son père lui dit « Mais les bêtes sauvages envahissent la terre. C'est dangereux. L'homme tue les bêtes. » Ils se tuent entre eux. Ils tuent les autres espèces pour survivre. L'homme fait toujours le mal. Or pourquoi fait-il le mal alors que c'est Dieu qui l'a créé? Son père lui dit, demande-le à ton confesseur. L'homme fait partie de la nature et Dieu la lui a donnée pour vivre, mais il doit la respecter. Les animaux sauvages sont nuisibles et doivent être détruits. Maxime lui dit, même ceux qui ne sont pas nuisibles, qui ne savent pas ce qu'ils font, ils font le mal sans savoir que c'est dangereux là, l'homme, et puis tuer une biche. Une biche est-elle dangereuse à l'homme? Oui, est-elle dangereuse à l'homme? Il a demandé ça à son confesseur. Le prêtre est gêné. Il ne sait quoi répondre. Maxime dit encore, « Et pourquoi l'homme fait du mal à d'autres hommes ?» Le prêtre lui dit, « Parce que l'homme a un côté mauvais, sauvage, primaire. Et l'éducation et la civilisation, c'est-à-dire qu'il doit apprendre à être meilleur avec les autres et lui-même en suivant les préceptes de Dieu. Il y a en l'homme deux êtres qui s'affrontent. L'un, le bien, l'autre, le mal. » Maxime lui demande, « Et pourquoi ?» Le prêtre lui dit, « C'est pour que l'homme puisse choisir librement entre le bien et le mal, c'est-à-dire entre Dieu et le diable. L'intelligence, c'est pour ça. Dieu n'a pas créé une machine asservie à son service, mais des hommes libres qui doivent aller librement à lui. » Maxime comprend et se dit que l'homme a encore beaucoup de chemin pour aller à la sagesse. Beaucoup de mortes innocents sillonnent son chemin, qui est un prix bien dur pour accéder à la sagesse. Il détruit son semblable et ce qui l'entoure. Lorsque Maxime revoit David, il lui parle de ce que lui a dit le prêtre. David lui dit, La religion, les curés, c'est pour les riches. Pour eux, je ne suis qu'un vagabond, un maître en prison, un enfant né du péché. Je suis quelqu'un de pas bien. Maxime demande, qu'est-ce que c'est un enfant du péché? David lui explique, l'enfant du péché, c'est un enfant qui a été conçu en dehors du mariage. Maxime ne comprend pas très bien. Il lui demande, pourquoi faut-il se marier pour avoir des enfants et être deux? David rit et lui explique, la création, le sexe. Ça dégoûte Maxime. Il lui dit, c'est dégoûtant ça. David rit et lui dit, ça ne te dégoûtera pas plus tard et que tu chercheras à faire la chose. Maxime lui dit, jamais. David lui demande, tu n'aimes pas les femmes? Maxime lui dit, pas de cette façon, elle ne doit pas aimer ça. David lui dit, bien au contraire. Maxime se dit, se laisser faire, tout ça, c'est dégoûtant. Tout d'un coup, il se dit, mais mes parents aussi. Il s'imagine qu'ils font ça. Ça lui donne envie de vomir. Il demande à son père, « Papa, comment se font les enfants ?» Son père furieux lui dit, « Ce ne sont pas des questions de ton âge. » Maxime se dit, « Bien sûr, il a honte. » Il se dit qu'ils font la nuit des cochonneries. Lui, Maxime, en fait des cauchemars. Il se demande pourquoi faire des enfants hors mariage. C'est pas bien. Et pourquoi c'est pas bien? Puisque dans le mariage, ça ne doit pas être bien non plus, puisque les parents se cachent pour le faire et ne veulent pas en parler. Ferdinand fait un caprice. Il veut que son frère soit près de lui le jeudi après-midi. La mère demande à Maxime le matin de rester près de son frère. Elle lui dit, tu vas rester avec lui pour t'occuper de lui. Jouer. Maxime fait, mais maman. Elle lui dit, c'est un ordre. Maxime est furieux. Il dit à son frère, pourquoi veux-tu que je reste avec toi? Ferdinand lui dit, parce que tu vas être près de moi pour jouer. Ferdinand demande, mais tu ne m'aimes pas. Ferdinand lui dit, ce n'est pas une raison. Maxime, pour éviter d'être disputé, joue avec son frère de mauvaise grâce. Il le fait courir dans le jardin. L'enfant tombe. Il crie « Aïe ! Aïe ! » La mère accourt, crie à Maxime. Elle dit qu'il est insupportable. Tu n'es même pas capable de jouer avec ton frère. L'oncle retrouve dans la rue par hasard Hélène, qu'il ne voyait plus.
Pourquoi elle fait la queue, la petite duchesse, là?
Elle lui dit, pourquoi nous voyons-nous plus? J'aimerais bien que l'on puisse nous revoir. L'oncle hésite. Oui, il hésite. Puis il dit, bien, voyons-nous. Tu comprends, je travaillais et je ne pouvais pas venir vous voir, j'avais trop de choses à faire. Je comprends. Ils se revoient. Il l'invite au restaurant. Tout en mangeant, il lui dit « C'est injuste que ce soit pas toi le président de la banque, puisque tu fais tout. » Auguste réfléchit, se dit que ce devrait être lui qui devait être président. Ah, si son frère pouvait mourir. Il a renoué avec Hélène, mais elle lui fait des scènes, parce qu'elle sait qu'il va avec d'autres jeunes filles. Elle lui dit, à ton âge, allez avec des gamines, tu devrais avoir honte, il lui répond. Je t'assure que c'est faux. Elle lui dit, tout le monde le sait, que tu fréquentes des gamines. Il lui dit, c'est faux, c'est toi que j'aime. Elle sait qu'elle ne peut pas lutter contre les jeunes filles. Elle a beau se peinturer, s'habiller jeune, mais ça ne va pas. Pour le tenir, elle se fait chatte. Elle dépense beaucoup. Lui, à cause d'elle, est obligé de prendre de l'argent à la caisse. Son frère s'en rend compte. Il le convoque à son bureau. Lui dit, « Je sais que tu prends de l'argent à la caisse. » Auguste lui dit, « L'argent est autant à moi qu'à toi. » Henri lui dit, « Non, il appartient à la société. Tu as un salaire. » Auguste dit, « Si petit. » Henri lui dit, « Si petit ? » demande au guichetier, « Si ton salaire est si petit. » Auguste lui dit, « C'est normal. » Que tu n'aies pas un si gros salaire. Tu as moins dépensé que moi, Henri lui dit. Tu n'as qu'à moins dépenser. Auguste lui dit, c'est la vie. Et puis, président, j'aimerais l'être aussi. Henri lui dit, président, c'est s'occuper d'affaires, toutes ses responsabilités. Si tu veux, tu prends ma place. Auguste lui dit, non, il refuse parce qu'il a peur des responsabilités. Hélène fait des scènes pour des factures. Elle lui dit, tu pourrais bien payer tout ça. T'es tout de même le frère du président de la banque, lui répond furieux. Je suis mal payé et je ne suis pas le président. Un après-midi, Maxime est avec David. Ils se promènent dans les rues. Tout à coup, ils voient la police. David se met à courir et crie à Maxime, « Dépêchons-nous, il ne faut pas qu'ils nous prennent. » Et Maxime court lui aussi. Ils vont dans les rues de plus en plus lugubres. Étroite, sale, avec des maisons délabrées. Les gens qu'ils croisent semblent misérables, sales. Ils font peur. Ils s'arrêtent de courir. David lui dit, « C'est là que je couche, dans les allées, le soir. » Maxime lui dit, « Tu n'as pas peur ?» David lui dit, « Faut bien que je couche quelque part. » Et il continue à marcher dans les rues lugubres. Il croise une femme qui est maigre, les cheveux blancs, habillée d'une robe sale, noire. Elle a le regard dur. David lui dit, « C'est la sorcière !» Et David crie à la femme, « Sorcière, sorcière !» et se met à courir. La vieille leur court après et leur crie « Bande de voyous !» Un jour, Maxime et David croisent un bohémien. David lui dit « Des voleurs d'enfants, fais attention !» Maxime demande « Pourquoi veulent-ils les enfants ?» et lui dit « Pour les faire travailler et faire la manche ?» Dans leur promenade, David a très faim. Maxime lui paye de temps en temps un pain d'épices. Chez lui, il prend du pain, du chocolat et du sucre. Son frère le voit, le dénonce à sa mère. Il dit à sa mère, « Maxime, prends de la nourriture !» Sa mère va voir Maxime, qui est dans sa chambre, et lui demande, « Pourquoi prends-tu de la nourriture ?» Il lui répond, « Pour donner aux pauvres. » Et lui dit, « Elle est furieuse. Je ne veux pas nourrir des pauvres. Ce sont des feignants. » Maxime lui répond, « Mais la charité chrétienne !» La mère lui dit, « Je n'aime pas les paresseux. Aide-toi, le ciel t'aidera. » Maxime lui répond, « Mais pour ceux qui n'ont rien, c'est difficile, il faut les aider. » Elle lui dit, « Pas avec mes provisions, tu n'as qu'à payer avec ton argent. » Il lui dit, « Je n'en ai plus. » Elle lui dit, « Tu as trop dépensé. » Et puis, comme tu m'as volé, tu n'en auras plus pendant un mois. Lorsque Maxime revoit David, il lui apporte à manger et lui dit, « Je n'ai plus d'argent. » David lui dit, « Ça ne fait rien. » Il fait de plus en plus froid, très froid. La glace d'hiver, cette année est dure. David, ses vêtements sont trop légers et déchirés, trop petits pour lui. Que faire? Il dit à Maxime, « Des fois j'ai tellement froid que j'ai envie de retourner en tôle. » Les pans de la Croix-Rousse sont gelés, l'on risque de tomber. Les charbonniers, les livreurs de lait ont des difficultés. On achète du charbon, mais l'on se chauffe peu, c'est trop cher. L'eau gèle et les tuyaux aussi. Même la fontaine des terreaux est gelée. David réussit à trouver du travail chez un charbonnier pour livrer. La charrette doit monter les pentes. Monter les étages pour déposer le charbon. C'est très pénible, sale, très sale. Il voit des gens misérables, habillés comme dehors chez eux. Ils achètent du charbon, très peu de charbon, parce que c'est trop cher. Lorsque David finit son travail, il est tout noir. Il ne sait comment se débarbouiller. Comme il a un peu d'argent, il va avec Maxime dans un café prendre du vin chaud sucré et un bout de pain. Maxime, la première fois qu'il l'a vu, a été surpris, tellement il était sale. Il lui a expliqué son travail. Il lui dit, c'est dur, tu sais, pour monter les étages avec des sacs de charbon. Des fois, il faut monter 5 étages. Il faut aussi monter les rues en pente et faire attention parce qu'elles sont gelées. Ce Maxime lui fait très chaud et on livre le charbon en faisant attention à ne pas salir, L'hiver dur, maladie, mort, chômage à cause du froid. Maxime a un beau manteau et des gants. Il a honte d'être bien habillé alors que son ami n'a rien. David lui dit, tu y es pour rien. Un jour, il voit un petit chien qui mord de froid et de faim. La bête les suit en pendant la queue. Ils ont pitié de cette bête et décident de la prendre avec eux. Elle les suit tout naturellement. Elle a froid, les jambes pendantes, le regard triste, pauvre bête. Maxime aimerait bien l'amener chez lui, mais il sait que c'est impossible. Lorsque David travaille, il laisse la bête seule dans l'allée. Elle dort. Lorsque David revient, elle lui fait la fête. Un jour, plus de bêtes. David demande aux gens de l'immeuble. On lui dit que des locataires s'est plaint qu'un chien traînait dans l'allée. On a prévenu la police. David demande, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Le vieux locataire, tout maigre et mal habillé, lui dit, les chiens vagabonds, on les tue. C'est défendu. David est effondré. Il ne peut pas aller à la police, parce que lui serait pris. Alors, David demande à Maxime, qui lui va au commissariat et dit qu'il a perdu son chien. L'agent, qui est à la banque, lui dit, « N'allez pas laisser votre bête comme ça, il est sans doute mort. » À cette heure, Maxime est effondré. Pour sa rédaction, il écrit l'histoire d'un petit chien vagabond qui l'a trouvé. Il est comme lui, ce chien, un enfant perdu. Malheureusement, le chien est pris par la police. L'enfant pleure la perte de son enfant et se sent seul. La mère lit la rédaction et lui dit que c'est très bien, très beau, très humain. Lui se dit, elle n'aurait pas aimé que le chien ni David viennent chez nous. Elle s'émeut pour une histoire, mais si elle sait que c'est une histoire réelle, elle n'aurait pas voulu de ces deux désespérés. Les gens sont bizarres. On s'émeut plus facilement pour une histoire racontée de la vie. Pourquoi ? Auguste en a assez d'Hélène. Elle lui fait dépenser un argent fou. Elle le fait marcher et lui, par fierté, il marche. Un jour, il va à Paris. À son retour à Lyon, il apprend et voit qu'elle a des amants. Furieux, il veut la laisser. Elle lui dit, ce n'est rien. Ce n'est rien. Il n'y a que toi qui compte. Henriette, la belle-sœur d'Auguste, organise une soirée. Hélène l'apprend, elle veut y aller. Elle lui dit, je veux aller à la soirée de ton frère. Il lui répond, c'est impossible. Elle lui dit, tu as honte de moi? Il lui dit, c'est pas ça, mais officiellement, tu n'es rien. Elle lui dit furieuse, comment je ne suis rien? Je suis ta maîtresse. Il lui répond, « C'est justement ça, ma maîtresse seulement. » Elle lui dit, « Je veux y aller absolument. Tu m'entends? Je veux y aller absolument. » Après des heures de scène, il capitule. Il se présente avec Hélène. La belle-sœur est furieuse. Elle l'amène dans un coin, lui fait une scène et lui dit « Qu'est-ce que c'est que cette femme que tu amènes ici ?» Et lui dit « C'est mon amie. » Elle lui dit « Elle n'est rien pour la famille. » « Tu ne l'as pas. » « Tu n'as pas à l'amener ici. » Auguste lui dit, j'ai bien le droit de voir qui je veux, de vous présenter qui je veux. Elle est furieuse, se retire. Et le bras bat froid à la femme durant toute la soirée. Par contre, elle va voir son mari et lui dit, tu te rends compte, ton frère, qui vient avec une maîtresse chez nous. Son mari ne dit rien, il est gêné. Elle lui dit, il prend la famille, pourquoi? Il ne respecte plus rien. Il faut lui parler. Le lendemain matin, Henri voit Auguste à la banque et lui dit, tu ne respectes plus la famille. Il y a des choses qui ne se font pas. Auguste hausse les épaules et quitte le bureau. Lorsqu'il revoit Hélène, il lui dit « J'ai donné un bon coup de pied à ces puritains. » Et ils rient tous deux. L'hiver n'en finit pas cette année. Non, il n'en finit pas cette année. Les classes des pères sont froides. Ceux qui sont pensionnaires dorment dans des dortoirs gelés et sont obligés de se laver au froid avec de l'eau glacée. Aux récréations, pour se donner un peu de chaleur, l'on joue au foot, même les prêtres s'y mettent. Maxime aimerait être enfant de corps, mais il a l'impression de faire quelque chose de sacré en étant enfant de corps. Il se demande si être prêtre, ce ne serait pas bien pour lui. Mais il s'aperçoit qu'il aime beaucoup mieux la solitude. Et puis, il se dit, ce qui le chiffonnerait, ce qui serait obligé, c'est de se plier au dogme de la discipline. Penser comme l'Église, ne pas avoir d'idées personnelles. Non, ne pas avoir d'idées personnelles. Ça, il ne supporterait pas. Il veut être libre, libre de penser et de dire ce qu'il veut. David, pour avoir plus chaud, couche dans les caves. Malgré que ce soit sale et qu'il y ait des rats, il y est plus au chaud que dans les allées. Voilà des semaines qu'il ne se lave plus. Comment faire? Il fait si froid que les fontaines sont gelées. Il fait ses besoins naturels dans les terrains vagues, des immeubles. En démolition, il ne va pas dans les poussières. Non, il n'y va pas. Il explique à Maxime ce qui s'y passe. Maxime est surpris. David lui dit, ce sont des tapettes qui courent après les jeunes, les enfants et les hommes pour leur faire des choses. Il faut s'en méfier. Ils cherchent à nous faire des choses que l'on fait aux femmes. Moi, je n'aime pas ça. Parce que je ne suis pas une femme. Ils prennent les hommes pour des femmes. Maxime lui dit, mais ils n'ont pas des femmes? David lui dit, c'est justement pour ça. Maxime lui dit, ils sont fous? Ils sont fous? Nous ne sommes pas des femmes tout de même. David lui dit, bien sûr que nous ne sommes pas des femmes. Mais eux, ça les excite plus que leurs femmes. David lui dit, ils sont des hommes qui n'en sont pas. C'est des espèces de merde. Ils sont toujours là à vous renifler. Ils sont prêts à tout. Mais même à vous donner de l'argent, Maxime lui demande. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, d'Homme. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.